Bonjour tout le monde. Excellent de vous voir et quel plaisir pour moi d'être là, surtout pour de voir tout ce que les enfants ont appris cette année. C'était vraiment encourageant pour mon cœur de voir ces grandes leçons apprises par les tout-petits. Bravo aux moniteurs et monitrices pour votre persévérance dans l'enseignement, l'amour pour les enfants. Très chouette à voir. Alors aujourd'hui, chers amis, en Luc 12, si vous avez une Bible, ça c'est super de voir, on va parler des conversations entre amis. Pensez à vos dernières conversations entre amis, les derniers mois. Est-ce que vous avez jamais eu une conversation, peut-être ces dernières années, difficile avec un ami? Est-ce que ça vous est arrivé? Vous essayez d'avertir, conseiller un ami proche. Vous voyez un danger dans leur vie de faire ceci ou cela, et vous essayez de les conseiller par amour. C'est jamais chouette de le faire, n'est-ce pas? C'est jamais chouette. Mais on a sûrement de la difficulté parce qu'on cherche leur bien, n'est-ce pas? On a tous besoin des amis comme ça. Mais c'est très frustrant, n'est-ce pas, quand si vous voyez un ami qui ignore votre conseil. Est-ce que ça vous est arrivé aussi? Oh, ça fait mal au cœur, n'est-ce pas? D'avoir un ami qui ignore votre conseil. Alors, chers Bruxellois, ce matin, plaisir d'être avec vous. Mais on va voir Jésus, en Luc 12, en conversation avec ses amis, en train de les conseiller et les avertir. Merci de voir ce texte avec moi, parce que vous allez voir, il ne s'agit pas d'un texte pour un grand groupe, pour tout le monde. Mais non, c'est un discours entre Jésus et un groupe restreint ici. Si vous voyez Luc 12, verset 4, Jésus dit, « Je vous le dis à vous, mes amis. » Verset 22, Jésus dit à ses disciples. Au verset 32, il dit, « Sois sans crainte. » Petit troupeau, c'est une chouette image, c'est ça, n'est-ce pas? Petit troupeau. Est-ce que vous voyez, il s'agit d'une conversation ici entre amis. Alors, si vous êtes amis de Jésus ce matin, il a un mot pour vous. Il a un mot pour moi. Mais est-ce que dans cette conversation entre amis, on sera à l'écoute du conseil de Jésus? Ou est-ce qu'on va l'ignorer? Qu'est-ce que vous en pensez? Prions pour son aide avant de voir ce texte ensemble. Je vous invite à prier. Merci en effet, notre Père Céleste, pour Jésus qui avertit ses amis. Et donc, aide-nous à recevoir son conseil ce matin. Garde-nous des cœurs durs ce matin, mais de recevoir, accepter et mettre en pratique ce que Jésus a à nous dire. Pour ta gloire, nous prions. Amen. On a trois points. Le premier, c'est ceci. Je vais dire les amis, parce qu'on parle des amis. De Jésus à ses disciples, gardez-vous de l'hypocrisie. Gardez-vous de l'hypocrisie. Alors, dans le texte précédent, Luc 11, Jésus est en train de parler à un autre groupe, les pharisiens. Donc, c'était les leaders religieux à l'époque. Mais eux, ils ne veulent pas être amis de Jésus ou disciples de lui. Parce que Jésus marque un gros problème chez eux. Il y a un énorme décalage dans leur vie. On va voir si cette illustration marche quand je vois les têtes maintenant. Mais Jésus, il dit dans quelque sorte, ils sont comme des œufs Kinder Surprise. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Des œufs Kinder Surprise. Non, ça ne vous dit rien. Non, non. Vous connaissez ces deux œufs de chocolat? Ils sont d'une couleur à l'extérieur, et puis vous ouvrez, et oh, quelle surprise! Et une autre couleur à l'intérieur. Et de même, selon Jésus, pour les pharisiens. D'un côté, sur l'extérieur, Jésus dit, ah, ils font beaucoup de choses, ils disent des choses sur Dieu qui sont très beaux. Ils sont stricts dans leurs règles de se purifier de manière extérieure, avec beaucoup de rituels. Alors, on s'attend à ce qu'à l'intérieur, dans le cœur, n'est-ce pas, ils sont en train d'écouter la voix de Dieu, qu'ils veulent accepter la voix de Dieu, des messagers de Dieu. Mais non, ils ne veulent pas accepter Jésus, fils de Dieu. Jésus dit, à l'intérieur, ils sont plutôt sales, même s'ils ont un extérieur qui est propre. Alors Jésus a conclu en chapitre 11, le verset 51, c'est très fort. Il dit, depuis Abel, le premier homme tué, jusqu'à Zacharie, le dernier prophète dans la Bible qui est tué par les Israélites. Jésus a dit, tu as toujours été en train de rejeter les messagers de Dieu. Il y a un énorme décalage depuis l'extérieur et puis le cœur à l'intérieur. Alors la section termine, verset 53, avec « Maintenant les ennemis veulent presser Jésus, comme le jus de citron. » On va boire beaucoup de ça, n'est-ce pas, si vous voyagez en France. Jus de citron pressé, n'est-ce pas? C'est ça que vous désirez quand il fait chaud. Mais c'est ce qu'ils veulent faire maintenant avec Jésus. Et qu'est-ce qui se passe, chapitre 12, maintenant le contexte? On a des foules qui viennent. Est-ce que vous pouvez imaginer, vous êtes un des 12. Maintenant, vous voyez des foules, après avoir ce discours sur les pharisiens, qui veulent maintenant presser violemment Jésus. Et puis des foules arrivent de l'ouest, de l'est. C'est quelque chose d'être, de risqué, n'est-ce pas, d'être avec Jésus. Alors Jésus prend ses amis pour parler de grandes choses, pour parler de Dieu, des hommes. Il a des avertissements pour nous. Et la première chose, verset 1, Jésus dit, « Gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » Jésus veut parler de quelque chose qui se répand vite. Je regarde vers mes amis qui font la pâtisserie. Le vin, c'est quelque chose qui se répand vite, n'est-ce pas, dans la pâte. Vous le mettez, et c'est très important, et ça se propage très vite. Et Jésus dit qu'il y a quelque chose qui se propage parmi les hommes très vite. C'est d'être ce monsieur Kinder Surprise. D'avoir une extérieur qui aime Dieu, mais à l'intérieur, de le rejeter. De faire semblant. Et Jésus dit, gardez-vous, mes amis, de l'hypocrisie. Pourquoi? Mais versets 2 et 3, je vais les lire. Jésus dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doive être reconnu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en plein jour. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. De temps en temps, peut-être une fois par an, je pense qu'on devrait faire ça plus souvent. Mais la famille Clark, ça c'est ma famille, pardon, on fait quelque chose de très important. On bouge le canapé. Est-ce que vous avez ça? C'est presque comme un rituel chez nous. C'est dans le calendrier, bouger canapé. Ça prend beaucoup de temps. Il y a tous les vis, n'est-ce pas? Et ouais, faut sortir le tapis en dessous, etc. Mais quand on bouge le canapé, alors là, tous les secrets de la famille sont révélés et sont manifestes. Et toute la famille est là pour voir le spectacle. Ah, c'est mon Lego! Qui a mis ça, mon Lego là? Je cherchais ça depuis des mois. Pourquoi, Julia, est-ce que ta brosse à dents est derrière le canapé? Pourquoi ton journal de classe? On a perdu ça il y a 6 mois. Pourquoi c'est derrière le canapé? Et qui a mangé tous ces bonbons? C'est le moment où on découvre tous les secrets. Maintenant, manifeste. Tout le monde peut voir. Ah, toi, tu as fait ça. Maintenant, c'est manifeste pour tout savoir. Et Jésus dit de même. Ça ne vaut pas la peine d'être ce monsieur Kinder Surprise. Un jour, tout sera dévoilé devant le juge, devant les anges de Dieu. Tout sera révélé. N'est-ce pas un bon conseil de la part de Jésus, pour nous, ses amis, de nous garder de l'hypocrisie, n'est-ce pas? De ne pas être ces faux-semblants, parce que le canapé sera bougé un jour pour toutes. Gardons-nous de l'hypocrisie. Voici le deuxième avertissement de la part de Jésus, ici, dans les versets 3 à 12. Maintenant, il va passer à un deuxième. Et je pense qu'il est très probable, maintenant, pour Jésus, pour les disciples de Jésus, quand ils voient les foules qui viennent, d'avoir peur. Je ne sais pas pour vous. Mais d'être là, contre les pharisiens, les puissants, ils sont tellement nombreux, respectés dans la société. Et on voit qu'ils ont même la puissance, n'est-ce pas, d'arrêter Jésus plus tard et vraiment le presser jusqu'à la mort. Et donc les disciples, je pense, sont en train de faire le calcul maintenant. Quand ils voient la friction entre Jésus et les pharisiens, je pense que ce n'est pas trop difficile pour eux de voir que si eux, ils sont dans le club de Jésus, alors la fusil sera pointée vers, n'est-ce pas, maintenant les disciples de Jésus. C'est un moment fort pour Jésus de parler avec ses amis. Est-ce que ça vaut la peine de rester avec lui quand c'est chaud, quand c'est serré, quand le monde veut te presser violemment? Ou est-ce que ça vaut la peine de quitter maintenant avec la peau? Pour plusieurs autour du monde, ne pas avoir honte de Jésus, ça veut dire littéralement la mort, n'est-ce pas? Et on devrait prier, moi je devrais prier plus souvent pour nos frères et sœurs dans ces pays-là. En Belgique, c'est beaucoup moins violent, n'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire qu'on est beaucoup plus audace? On parle haut et fort de Jésus. Mais bien sûr, si vous êtes comme moi, vous avez peur des gens aussi, peur des hommes. Des moments, est-ce que vous avez eu ces dernières semaines, des moments où on aurait pu parler de Jésus, mais pour ne pas casser l'ambiance, moi je ne dis rien. Quelqu'un demande ce qu'on a fait dimanche. Oh, on change de sujet très vite. Quelqu'un demande notre opinion par rapport à une activité qui déplaît à Dieu. Et on préfère sauver l'honneur, n'est-ce pas, en disant rien. Comment est-ce que Jésus va aider ses amis? Mais regardez ces versets très très forts, verset 4, avec moi. Il dit, « Je vous le dis, à vous mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Moi, je vous montrerai qui vous devez craindre. » Une fois, j'étais à Londres, je ne sais pas si vous avez été à Londres, dans la périphérie, et je voulais voir le centre. Je voulais voir Big Ben, le palais de Buckingham. Quelqu'un a visité Londres? Oui, peut-être. C'est très chouette de voir le centre-ville. Donc j'ai acheté un billet pour le métro et j'étais en route, très enthousiaste, mais j'ai dû m'arrêter. Le monsieur qui checkait des billets a dit « Il faut s'arrêter là, monsieur. » Pourquoi ? Mais parce que avec mon billet, j'avais un billet qui pouvait accéder à la zone 2 à 5, apparemment. Je pouvais voyager dans toutes les zones 2 à 5, mais pas là où je voulais aller, dans la zone 1, là où il y a toutes les bonnes choses. Et il m'a expliqué qu'il fallait aller acheter un autre billet qui pouvait accéder dans la zone 1 à 5, pas 2 à 5. Est-ce que Jésus n'est pas en train de dire la même chose? Les hommes, ils ont un pass. Ils peuvent faire beaucoup de choses, mais seulement les choses dans la zone 2 à 5. Ils peuvent faire du mal à notre corps, ils peuvent cracher, ils peuvent nous harceler, presser, tendre des pièges, te tuer, mais rien de plus. Rien de plus, dit Jésus. Et il y a un seul qui a accès à la zone 1, dit Jésus. Et c'est de lui qu'on a honte. N'est-ce pas incroyable? Je pense que Jésus est en train de nous choquer ici, n'est-ce pas? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Mais on dit, Jésus, c'est exactement ce que je crains le plus. C'est exactement ça, n'est-ce pas? Il peut faire la chose dont je crains le plus. Mais Jésus dit, verset 5, il y a quelque chose de beaucoup plus grave. Verset 5, lisons. « Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, vous dis-je, c'est lui que vous devez craindre. » Jésus dit, les hommes ont très peu, est-ce que vous croyez ça? Très peu de puissance en comparaison avec le juge car les hommes ne peuvent pas jeter dans la géhenne. Ça, c'est beaucoup plus grave, n'est-ce pas, que tuer le corps. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, pourquoi est-ce qu'on passe tout notre temps pour essayer de pacifier ceux qui font seulement la zone 2 à 5? C'est ça la logique qui me semble. Moi, j'étais il y a 2 semaines au zoo d'Anvers avec ma maman. Grâce à Carrefour, si vous allez à Carrefour, achetez moins 50%. Petit conseil pour vous, mes amis, si jamais vous voulez aller au zoo, c'est très chouette. Et parfois, on trouve que dans les zoos, il y a des enclos où les animaux sont ensemble. C'est intéressant. Donc, on a vu un enclos et avec des zèbres qui hébergeaient avec des rhinocéros. Et ça doit être drôle de vivre ensemble, n'est-ce pas? Mais imaginez, vous êtes en train de prendre des photos pour mettre chez vous, et oh non, vous tombez dans l'enclos, vous êtes trop près du mur. Alors, si vous êtes maintenant debout dans l'enclos, alors de qui est-ce que vous allez vous occuper le plus, à votre avis? Est-ce que vous allez passer tout votre temps sur le zèbre? Donc, essayer d'éviter, de ne pas changer le regard avec le zèbre. Mais bien sûr que non, c'est avec le rhinocéros, n'est-ce pas? Vous allez vous occuper. Et vous en fichez, n'est-ce pas, des zèbres, ce qu'ils font. Ils peuvent faire rien en comparaison avec les rhinocéros. C'est une illustration bête, je sais. Mais est-ce qu'on ne fait pas la même chose? On est en train de craindre ceux qui ont peu de puissance, selon Jésus. On a vu au chapitre 11, Jésus, il est plus fort que l'homme fort, il dit. Il est venu libérer les esclaves de l'homme fort. C'est celui qui nous libère de Satan, le Dieu de ce siècle. Et c'est lui que nous devons craindre. Lui qui est venu nous sauver par son sang. Et pour tous ceux qui craignent le Seigneur Jésus, voici la promesse, verset 8. Quelle promesse! Et si vous pouvez partir avec ce verset, je pense que ça nous ferait beaucoup de bien. Verset 8. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera. Quelle promesse, n'est-ce pas? On confesse Jésus ici-bas. Est-ce que vous êtes prêts à faire cela? Est-ce que vous êtes prêts? Si vous le faites, Jésus dit, moi, le juge, je vais vous confesser devant les anges de Dieu ce jour-là. Quel avertissement, verset 9, c'est le revers de la médaille. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. C'est très simple, n'est-ce pas? Qui est-ce qu'on craint le plus? Qui est-ce qu'on craint? Mais craignons, chers amis, celui qui a le plus de puissance, le Dieu véritable et éternel. Il y a longtemps, au deuxième siècle, il y avait un homme appelé Polycarpe. On ne donne pas des prénoms comme ça aujourd'hui, mais ça c'est très chouette, je pense, de donner à votre nouveau fils. Polycarpe, c'était un évêque de Smyrne. Il a reçu même une des lettres, je pense, de l'Apocalypse, cette église à Smyrne. En tout cas, Polycarpe, il avait le choix. Confesser Jésus ou être mangé par des lions. Waouh, ils étaient vraiment menaçants ces jours-là. Confesser Jésus ou renier sa foi ou être mangé par des lions. Polycarpe, vous savez ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait. Il n'a pas renié sa foi. Alors, le monsieur a essayé une deuxième fois. Et nous avons même un extrait de l'interrogation. Et il dit ceci, le monsieur. Je ferai en sorte, Polycarpe, que vous soyez consumé maintenant par le feu, vu que vous haïssez les bêtes sauvages, à moins que vous ne changiez d'avis. Et comment est-ce que Polycarpe a répondu? Il a dit, vous menacez avec le feu qui brûle pour un peu de temps, après quoi il est éteint. parce que vous êtes ignorant du feu du jugement qui vient du châtiment éternel qui est réservé pour les impies. Mais pourquoi vous vous tardez? Venez, faites comme vous le souhaitez. C'est très Luc 12, n'est-ce pas? Je pense qu'il a entendu le conseil de son ami Jésus. Il dit, le feu est éteint après un peu de temps. Et lui, il a peur du juge en plus, beaucoup plus que les hommes, n'est-ce pas? Alors, est-ce que nous sommes tentés de renier Jésus, pas devant le feu, devant les lions, mais devant les collègues au travail, devant les amis, devant les camarades de classe? Qui est la personne, honnêtement, dont vous avez le plus peur de témoigner? Peut-être que vous avez cette personne dans votre tête. Alors, priez Dieu pour l'aide de ne pas avoir honte du Fils éternel. Qui est-ce qu'on va craindre? Nous arrivons donc maintenant à notre troisième point. Troisième point dans ce texte, et c'est ceci. De Jésus à son petit troupeau, ne cours pas après les richesses, car elles sont temporaires et pourvues par votre Père. On va parler maintenant de l'argent. Jésus va parler avec ses amis de l'attrait des richesses. Alors, c'était une semaine intéressante, la semaine passée. Monsieur Elon Musk, vous avez entendu parler de lui?
Oui,
sûrement. Parfois, c'est intéressant de voir ce qu'il fait dans la vie, n'est-ce pas? Parfois, il va aller sur la planète Mars. On ne sait pas quoi ce qu'il va faire en prochain, n'est-ce pas? Mais la semaine passée, il est devenu le premier homme ou femme sur Terre de devenir quelque chose. C'était quoi? Pardon? Trillionnaire? Oui! Moi, j'ai dû chercher ça. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un millionnaire, c'est pas un milliardaire. Un trillionnaire! Je pense que c'est 1 000 milliards, quelque chose comme ça. Moi, j'ai beaucoup de questions pour lui. Qu'est-ce qu'il fait dans le resto quand il voit le steak? C'est beaucoup trop cher. Ça devrait être la moitié. Est-ce qu'il prend les pâtes aussi? Ou il s'en fiche? Il regarde même pas les prix. Moi, j'ai des questions pour son appli bancaire. Est-ce qu'il y a 12-0? Est-ce que ça marche? En tout cas, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais la Bible est claire. Pour les hommes pécheurs, les richesses sont attirantes, étincelantes, comme des mirages dans le désert. On pense, ah waouh! Ah waouh, les richesses, ça c'est la vraie vie. Et puis on arrive... Et cette déception. Et peut-être les amis de Jésus maintenant, ils voient qu'ils seront rejetés s'ils restent avec Jésus. Ils ne seront pas des trillionnaires, bien sûr, mais ils se demandent, mais si je suis rejeté, si je perds mon boulot, peut-être d'être dans le club de Jésus, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je peux juste garder une apparence de religiosité plutôt et ne pas mentionner Jésus? Je ne sais pas pour vous, est-ce que vous pensez à l'argent beaucoup? Si vous pensez à votre compte en banque? Juste pour être honnête avec vous, moi je me suis inscrit récemment avec ma femme pour un genre de home exchange. Je ne sais pas si vous faites ça, vous avez fait ça. On avait pensé, ça pourrait être chouette, on peut échanger de maison, avoir des vacances à notre pays, eux ils viennent chez nous. Mais j'ai constaté qu'il y a beaucoup plus de demandes de ma part que des gens qui veulent venir chez nous. C'est dommage, n'est-ce pas? Je trouve notre maison jolie, vous êtes les bienvenus, si vous voulez le voir. Mais j'ai commencé à voir les maisons qui reçoivent beaucoup de demandes. Et puis mon cœur commençait à rêver. Ah, si seulement on avait un peu plus ça dans la maison. On avait juste une petite piscine. Ça, c'est trop chouette. Ou si on avait ce genre de déco, etc. Une maison de luxe. Comme ça, on pourrait facilement voyager. Et j'ai dû parler avec mon cœur et arrêter mon cœur de faire ses rêves par les traits des voyages, des richesses. Alors, Jésus veut aider son petit troupeau. C'est une chouette image, n'est-ce pas? Ça parle du berger. Le berger qui veut prendre soin Et qu'est-ce que le berger fait? Il nourrit, n'est-ce pas? Il nourrit ses petits brebis. Est-ce que les brebis peuvent exister sans le berger? Mais bien sûr que non. Tous les dangers. Mais eux, ils veulent en prendre soin. Il y a deux raisons que Jésus donne ici. Pourquoi ne pas courir après les richesses? La première chose, c'est parce que les richesses ne pourvoient pas pour l'âme. Ne pourvoient pas pour l'âme. Et je pense que ça, c'est l'histoire au verset 13 et suivant. Il y a quelqu'un dans la foule qui demande à Jésus, il y a une question. Jésus, mon frère, il ne partage pas l'héritage avec moi. Aide-moi. Est-ce que tu peux l'aider? Toi, tu as l'influence. Et Jésus, il fait ça un peu, il trouve ça un peu drôle, n'est-ce pas? Verset 14. Il demande, mais qui m'a fait juge parmi vous deux? C'est drôle, n'est-ce pas? Parce que Jésus vient de parler comment il est vraiment le juge éternel, qui donne un héritage éternel. Et maintenant, quelqu'un veut que Jésus soit le juge pour un héritage terrestre. Alors, qu'est-ce que Jésus va aider? Comment est-ce qu'il va aider cette personne? Mais il va les pointer vers un héritage éternel et lui demander de prendre soin plutôt de son âme que penser à son héritage terrestre. C'est une histoire qui parle d'un monsieur qui a une grande récolte. Il a de la chance, ou il pense qu'il a de la chance. Et donc, il commence à construire des greniers. Mais ce n'est pas assez de greniers, il construit encore de greniers. Et le point culminant, c'est le verset 19, si vous pouvez regarder ça avec moi. Verset 19, il dit ceci. « Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. » Est-ce que vous voyez, il pense qu'il a pourvu avec des richesses terrestres pour son âme. Mais horreur, verset 20. Au milieu de la nuit, Dieu demande son âme. Le monsieur avait pensé qu'on fait du bien pour notre âme avec des choses terrestres, qu'on remplit le frigo pour l'âme. Est-ce que c'est un peu comme ce monsieur qui a posé la question au début? Mais Jésus veut nous montrer, à nous, ses amis, on ne fait rien pour notre âme avec des choses sur terre. On ne fait absolument rien. On doit les laisser. Oui, tu peux les laisser pour les enfants, les petits-enfants. Ça, c'est chouette. Pour les voisins, pour les amis. Mais tu n'es pas en train de pourvoir pour l'âme. Est-ce que vous voyez ça? Les richesses sont incapables, incapables. Aucune puissance de nous donner la vie, la vraie vie qui nous attend dans l'éternité. Je pense que c'est ça qu'il veut dire dans le verset 33 aussi. Vous connaissez ce verset? Il dit « Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où il n'y a pas de voleurs qui approchent ni de mythes qui détruisent. » Ou le verset 22, moi j'avais toujours du mal à comprendre ce verset, mais je pense que dans le contexte, ça a beaucoup plus de sens. Il dit, verset 22, « Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous pouvez manger, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu, car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. » Il y a des choses plus importantes, dit Jésus, que la nourriture, que les vêtements. Jésus est en train de parler de notre âme. Vous voyez? Donc, ne pensez pas à toutes ces choses. Plutôt, pensez à votre âme, chers amis. Sur l'horizon, l'éternité nous attend. Alors, est-ce qu'on devrait être des immatérialistes? Est-ce qu'on devrait jeter le frigo dans le conteneur? Cet après-midi, je ne sais pas si vous avez des projets, est-ce que vous allez conteneur maintenant? Jetez tous vos vêtements, quittez votre maison, est-ce que ça n'a pas d'importance pour Jésus? Mais moi, je suis choqué de voir que Jésus, oui, il voit que l'importance des choses matérielles. Mais Jésus dit quelque chose de plus important. Il dit, ne courez pas après ces choses parce que votre Père va pourvoir pour vous. Verset 30. Est-ce que vous voyez ça? Il voit qu'on a besoin de ces choses et votre Père Céleste connaît vos besoins. Alors Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Moi, dans les restos, quand on mange en soupe en famille, vers la fin du repas, moi, je suis quelqu'un de très pressé. J'aime pas trop attendre pour les reçus, les tickets à la fin du repas. Merci de prier pour moi, pour la patience. Mais parfois, on a des enfants qui commencent à descendre de la table, commencent à crier ou courir. Vous connaissez l'expérience si vous êtes parents. Dans le resto, et ma femme me donne un regard qui vaut 1000 mots. Cherchez le ticket de caisse tout de suite. Sinon, je vais dire que je ne connais pas cette famille. Alors, moi, je me lève, je cours, j'essaie de trouver le serveur, peu importe ce qu'il fait, je l'attrape. Ticket de caisse, s'il vous plaît. Et donc, je cours vers le caissier pour demander le ticket de caisse. Et encore, c'est la même réponse. Je devrais apprendre ça. Monsieur, ça sera apporté à votre table. Ah, ok, ok, ok. Et puis, je retourne lentement. Je suis abandonné par ma femme. Non, c'est pas vrai. Et donc, moi, à la table, on doit attendre le ticket de caisse. Mais est-ce que c'est pas exactement la même chose? Jésus veut nous apprendre qu'on doit être pas comme des fous en train de chercher des choses matérielles sur terre. Pourquoi? Parce qu'on a un berger. Est-ce que vous savez ça? Nous avons un Père céleste qui n'est pas seulement le Seigneur de l'éternité à venir, c'est le Seigneur de ce monde aussi. Et ce que Jésus veut dire à ses amis, c'est prenez soin de ce qui est essentiel, de votre vie. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Mais de votre âme, de confesser le Fils. Et si vous avez des soucis par rapport à comment les autres vont vous voir, si vous allez perdre votre boulot, si vous allez être rejeté de la famille, Jésus dit, le berger va prendre soin de vous. Il emploie des images. Deux images ici. Vous connaissez ces images? Les corbeaux. On ne pense pas, c'est pas très fancy, les corbeaux. Mais regardez les corbeaux, dit Jésus, verset 24. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni se moissonnent. Ils n'ont ni cellier, ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Moi, je suis très jaloux des corbeaux juste à côté de moi. Ils ont un grenier énorme. Non, ce n'est pas vrai. Qui a vu un corbeau avec un énorme cellier, n'est-ce pas? Non, il vit jour par jour. Il n'a pas un iPhone avec une liste de choses à faire, des choses à acheter du magasin de colorite. Non, c'est Dieu qui le nourrit. Alors, pourquoi est-ce que nous avons si peu de foi, n'est-ce pas? Je parle à moi-même. Dieu va prendre soin de son peuple. Verset 27, regardez les jolies lys. On dit lys. Merci. Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Qui a vu un lys prendre le bus pour aller au boulot? Mais quand même, il est vêtu de manière glorieuse. Verset 27, plus que Salomon même, dans toute sa gloire. Et si Dieu revêtit ainsi l'herbe qui existe aujourd'hui dans les champs, demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas à plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Alors, chers amis, Jésus est en train de nous enseigner de regarder vers l'essentiel, de nous concentrer sur la confession du Fils. N'est-ce pas chouette? Si on fait cela, alors, il y a deux choses, deux promesses ici. Une chose, c'est que Dieu, le juge, Jésus va nous confesser, si on confesse ici, sur terre. Et la deuxième promesse, c'est que si on recherche son royaume et on confesse ici-bas, alors il va pourvoir pour nous en attendant d'apparaître devant le tribunal. Est-ce que vous voyez, les deux choses sont comprises, c'est un package. Un package deal, si vous voulez. L'éternité auprès de lui et le présent. Notre Père va pourvoir pour nous. N'est-ce pas magnifique? Les promesses pour les deux. Alors, pour conclure, Est-ce qu'on a compris quelque chose sur le discipulat ce matin? Je pense c'est que Jésus veut nous encourager chez ses amis de regarder plus long terme, de regarder vers notre âme. Ça, il me semble, c'est le cœur ici de l'enseignement pour les amis de Jésus. Est-ce que vous êtes en train de penser aux bourses temporaires, bourses célestes, au royaume céleste, au tribunal? Et si Jésus va nous confesser devant les anges de Dieu? La question se pose pour nous tous ce matin. Quelle richesse voulez-vous, temporaire, éternelle? Quel applaudissement voulez-vous? Par des hommes ou par le juge? Est-ce que vous êtes prêts à suivre le Seigneur Jésus? Si vous êtes en train de poser la question, vous remarquez dans votre vie, en fait, il y a quelque chose à changer. Quelque chose a changé même aujourd'hui. Commencez à confesser le Fils. Alors, je pense que le verset 10, c'est pour vous. Parce que Jésus promet que celui qui a mal parlé du Fils de l'homme, si on tourne vers lui, il dit que tout sera pardonné. N'est-ce pas la grâce immense? Si on a mal parlé de Jésus et on remarque, ah, j'avais honte de lui. Si vous tournez vers lui dans la repentance ce matin, alors tout sera pardonné. Et cherchez d'abord le royaume de Dieu, dit Jésus, et vous pouvez dormir en tranquillité. C'est difficile à dormir en ce moment, ça c'est de manière figurative. Il y avait beaucoup de tonnerres à Louvain-la-Neuve, en tout cas hier soir. Mais vous connaissez ce chant, Dieu ta fidélité? Il y a le verset qui dit, ta force à chaque pas, ton espérance, par ta fidélité, tout est à moi. Vous voyez ça? C'est le présent, le futur, tout. Si vous êtes ami de Jésus, est-ce que vous savez, ta force à chaque pas, ton espérance? Continuons, chers amis, à confesser le Seigneur Jésus. Je vous invite à prier ensemble pour terminer. Peut-être un peu de silence si vous voulez prier Dieu vous-même dans votre cœur. Oui, notre Père Céleste, merci pour les avertissements de notre ami Jésus, le juge de tous les hommes, le Seigneur d'éternité. Et aide-nous à les recevoir. S'il te plaît, aide-nous à ne pas rejeter le conseil de notre ami, mais d'agir en fonction. Garde-nous de l'hypocrisie, d'avoir une belle extérieur, mais de rejeter ta voix à l'intérieur, sachant que tout sera dévoilé. Pardonne-nous pour notre crainte des hommes qui ont beaucoup trop de peu de puissance en comparaison avec toi. Aide-nous à te craindre seul, toi le juge qui peut jeter dans la géhenne. Et pardonne-nous pour notre manque de foi dans toi, notre Père et Berger. Pardonne pour notre inquiétude par rapport à des choses matérielles trop souvent. Mais merci parce que tu nous as donné le royaume et tu vas pourvoir pour nous à chaque pas. Alors je prie pour mes frères et sœurs, moi-même, aide-nous à chercher au-dessus de toutes choses ton royaume et pardonne-nous pour nos fautes. Au nom de Jésus. Amen.